Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Doucement mais sûrement, la paix s'installe en Colombie. Le Parlement colombien a approuvé hier la loi amnistiant les guérilleros des FARC, à l'exception de ceux reconnus coupables de crimes contre l'humanité et de viol. Une étape qualifiée d'historique par le président Juan Manuel Santos, récompensé de ses efforts il y a quelques semaines par un prix Nobel de la paix. Le processus en cours en Colombie servira-t-il un jour de modèle au règlement de la question basque? Eh bien, on en est encore loin. Si l'ETA a fait le choix de renoncer à toute activité armée depuis déjà 5 ans, rien n'est réglé pour autant, comme on atteste ce qui s'est passé à Luosoa, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans la nuit du 16 au 17 décembre dernier. Cette nuit-là, les polices françaises et espagnoles investissent une maison. À l'intérieur, des armes de poing, des fusils d'assaut, des pistolets mitrailleurs. 5 personnes sont arrêtées, mises en examen pour détention d'armes en relation avec une entreprise terroriste avant d'être remises en liberté sous contrôle judiciaire. Elles expliquent qu'elles ne font pas partie de TEA, qu'elles étaient là pour neutraliser le stock d'armes, qu'elles ont pris cette initiative pour pallier l'inertie des gouvernements. Car depuis 5 ans, ni Paris ni Madrid n'ont manifesté de réelle volonté de sortir de ce conflit, vieux de plus de 60 ans, autrement qu'en obtenant la disparition inconditionnelle de l'organisation terroriste responsable de la mort de plus de 800 personnes. Aucun processus de négociation n'est en cours, malgré la paix des armes, ce qui fait dire à de nombreux observateurs que la France et l'Espagne ont peut-être intérêt à maintenir l'ETA dans son statut d'ennemi de l'intérieur. Alors Pays Basque, à quoi sert encore l'ETA ? Et là, c'est la question que nous allons poser et tenter de résoudre ce soir en compagnie de Michel Tubiana. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat, président du réseau Euromède Droit, président d'honneur par ailleurs de la Ligue des droits de l'homme, et vous êtes un des acteurs indirects de cette opération de Luosoa sur laquelle nous allons revenir dans un très court instant. Pour discuter avec vous, elle est au téléphone, c'est Barbara Loyer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, spécialiste de l'Espagne, directrice de l'Institut français de géopolitique à Paris 8. Vous avez publié l'an dernier chez Armand Collin « L'Espagne en crise, crise au pluriel ». Et puis depuis les studios de France Bleu Pays Basque à Bayonne, Vicente Vrignon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, adjoint au rédacteur en chef de la locale, donc de France Bleu à Bayonne, et vous suivez en particulier les questions autour de TEA. Depuis déjà quelques années, vous avez signé deux ouvrages consacrés à cette question par le passé. Vicente Vrignon, d'ailleurs, alors, dans cette fameuse nuit là que j'évoquais en ouverture de l'émission du 16 au 17 décembre dernier, vous êtes journaliste, vous suivez ces questions. À quel moment et par qui avez-vous été mis au courant de ce qui était en train de se passer ?
Alors, on a reçu un Twitter sur le compte Twitter de la rédaction de France Bleu Pays Basque, avec une photo d'une perceuse à colonnes et d'une meuleuse, et avec un texte sibyllin, je ne sais plus très bien, c'était la société civile veut désarmer ETA, la police n'en empêche, je crois que c'était quelque chose comme ça. Et les personnes qui étaient hashtaguées, c'était la presse locale, donc nous, la PQR, France 3, voilà.
Donc c'était au moment de l'intervention policière ou c'était quand même quelques heures avant, vraiment en amont?
Je pense que c'était au moment, parce que moi j'ai mis à peu près, alors il disait Luosoa, le nom du village était cité, j'ai dû mettre à peu près trois quarts d'heure pour y arriver, j'étais le premier sur place, et je suis arrivé vers quelque chose comme 9h moins le quart par là. Et le raid était sur place et visiblement, ils étaient surpris. Visiblement, l'opération n'était pas commencée depuis très longtemps. Donc, de ce qu'on a pu savoir après, visiblement, c'est l'un des 5 qui était à l'intérieur qui avait préparé ce compte Twitter qu'on connaissait pas d'ailleurs, qui était intitulé « Les artisans de la paix ». Et donc, a réussi à envoyer ce message à l'ensemble de la presse. Puis ensuite, l'ensemble de la presse a débarqué. Et puis les militants. Et voilà. Et la nuit s'est passée sur place.
Et vous-même, avez-vous été surpris par cette opération? Ou bien est-ce que vous aviez quelques indices de la préparation, justement, de ce type d'opération? Alors, sur laquelle on va revenir, hein, sur le contenu, la volonté, voilà, de lancer une première étape du désarmement de TEA.
Non, rétrospectivement, on se dit qu'on aurait pu s'en douter, mais non, pour être tout à fait honnête, on a été surpris. Hein, sur le moment, vraiment, on a mis un petit moment avant d'arriver à comprendre ce qui se passait, qui était là-dedans, pourquoi, comment. Et oui, vraiment, on a été surpris de cette opération, on ne s'y attendait pas.
Alors Michel Toubiana, vous, je ne sais pas si vous avez été surpris par l'intervention policière.
Non, pas vraiment.
En tout cas, vous n'avez pas été surpris par l'identité des personnes qui se trouvaient dans cette maison et sur ce qu'ils y faisaient. Qui sont ces gens d'ailleurs ? Enfin, sans redonner forcément leur identité, mais il faut préciser, ce ne sont pas des militants de TA.
Non, aucun d'entre eux. Cela dit, il y en a deux d'entre eux, trois d'entre eux que je ne connaissais pas. Je connaissais Tchetch et Michel, mon homonyme de prénom. Et ce sont tous des membres de la société civile qui sont unanimement connus pour leur refus de la violence, pour leur condamnation de la violence dans le Pays Basque, qui sont... L'un est président de la chambre d'agriculture locale, autonome, pas l'officiel. L'autre est un écologiste très connu dans la région, et c'est un président de cave de la coopérative qui fabrique le fromage basque, etc. Donc des gens qui sont insoupçonnables sur ce terrain-là.
Sauf qu'ils se retrouvent dans une maison dans laquelle il y a des armes et
pas juste quelques-unes.
Hein.
Non, pas juste quelques-unes. C'était tout à fait volontaire, puisque nous trouvions en face vous l'avez évoqué tout à l'heure, de l'autisme du gouvernement espagnol et du gouvernement français. Dans cette situation quasiment ubuesque, vous avez une organisation qui dit « je veux désarmer » et où les gouvernements répondent « nous ne voulons pas de vos armes, nous allons les prendre ». C'est-à-dire une autre manière de ranimer le conflit en permanence là-dessus. Donc c'était une opération symbolique. Le journaliste de France Bleu a évoqué une photo avec une perceuse. C'est effectivement de neutraliser les armes par mesure de sécurité pour les remettre ensuite. À partir de là, c'était une manière de tenter de débloquer la situation.
Barbara Loyer, quelle a été votre réaction et quelle est votre réaction aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé cette nuit-là ? Et à la fois votre point de vue sur cette initiative qu'ont voulu prendre ces quelques personnalités de la société civile pour tenter sans doute aussi peut-être d'interpeller sur la question basque et sur le processus de paix qui est à un point assez proche du zéro, et puis sur la façon dont les forces de police sont intervenues.
Mon point de vue, c'est que on est de part et d'autre dans la situation du Pays Basque, dans une situation dans laquelle ce qui compte le plus, c'est la communication autour de la représentation, soit de ce que les uns appellent un processus de paix, ce qui signifierait qu'il y a eu une guerre. Ça, c'est l'ETA et les partisans de l'ETA et une bonne partie du nationalisme basque. Et puis, en face, des gens qui s'opposent à l'ETA et qui s'opposent au nationalisme basque d'un autre point de vue, qui dit qu'il n'y a pas de processus de paix, qu'il y a un processus de sortie de terrorisme parce qu'il n'y a pas eu de conflit, parce que la plupart des 860 personnes qui sont mortes ont été tuées dans des attentats sans qu'il y ait eu une véritable guerre contre l'ETA après 1977, c'est-à-dire après l'amnistie qui a mis tous les prisonniers politiques franquistes et de l'ETA hors des prisons.
Et alors, dans cette volonté de part et d'autre de communiquer, Barbara Loyer, dans cette volonté de communiquer de part et d'autre, qui, selon vous, a le mieux communiqué cette nuit-là et autour de cette affaire-là ?
Le mieux, je n'en sais pas, parce que je sais pas exactement quel. Enfin, si, je pense que si vous voulez cette opération de donner des armes en appelant aussi les journalistes fonctionne, en ce sens que l'émission de radio que nous sommes en train de faire prouve que on parle de l'ETA et on parle de la fin de l'ETA, alors que avant on n'en parlait plus sur les radios nationales. Donc, de ce point de vue-là, moi, je pense que ça faisait partie de l'objectif et que de ce point de vue-là, il est atteint. On parle de la fin de l'ETA et on en parle en termes de conflit, de guerre et de paix, ce qu'une bonne partie de la société basque et de la société espagnole refuse.
Alors Michel Toubiana, vous qui êtes un des acteurs de cette initiative, même si vous n'étiez pas sur place ce soir-là, mais vous aviez appelé, donc avec d'autres qui étaient présents, à justement mener mené cette opération de désarmement en disant, bah voilà, les États ne s'en chargent pas alors que ETA a choisi d'arrêter son activité armée. Donc nous, on va prendre les choses en main. Est-ce que finalement, pour vous, l'essentiel, c'était de faire parler de ce sujet et peu importe que cette première opération de désarmement aille à son terme comme vous l'aviez envisagé ou qu'il y ait une opération de police?
Non, très sincèrement, le désir était que cette opération aille à son terme, c'est-à-dire qu'ensuite, nous remettions officiellement ces armes au procureur de la République, au courant du mois de janvier. Ce qui est vrai, c'est quand même d'abord le...
Ça veut dire que vous preniez quand même le risque, pendant un mois, de détenir un stock d'armes. C'est quand même...
Sur le plan technique, je ne m'aventurerai pas. Mais en tout état de cause, il ne vous a pas échappé que, encore une fois, la photo montrait une perceuse, c'est-à-dire des armes neutralisées. Non pas, contrairement à ce qu'a dit ensuite le ministre de l'Intérieur, de manière à empêcher... toute identification judiciaire, mais simplement neutralisée. Parce que pour les raisons que vous venez vous-même d'évoquer. Moi, ce que je constate, c'est que tout cela n'a été, peut-être cette émission, n'a été possible que par le mensonge, l'intervention, bien entendu, des forces de l'ordre, mais par le mensonge de Bruno Leroux. Bruno Leroux savait pertinemment qu'il y avait qui était, et c'est-à-dire pas des membres de l'ETA. Et en annonçant par un communiqué triomphaliste une grande victoire contre l'ETA, etc., il a quand même un peu scotché toute une partie de la société civile basque, encore une fois, est quand même désireuse que les choses s'apaisent et se règlent.
Alors il y a eu ce communiqué qui a été écrit extrêmement vite, hein, vraiment dans la nuit là aussi de cette opération policière. Puis Bruno Leroux, donc ministre de l'Intérieur, a également réagi quelques heures plus tard. Écoutez notamment ce qu'il a dit.
Pourquoi détruire des armes si elles ont servi notamment à commettre des faits graves, peut-être même des attentats? En matière de terrorisme, toutes les preuves doivent pouvoir concourir à la justice. Et donc c'est pour cela qu'il fallait saisir des armes et personne n'a le droit de se proclamer destructeur d'armes, éventuellement de preuves, quand il y a eu des faits graves.
On a du mal à lui donner tort au ministre de l'Intérieur, Michel
Touyana. Il ajoute la bêtise au mensonge et le mensonge à la bêtise. Encore une fois, il s'agissait de les neutraliser. La photo que vous évoquiez tout à l'heure le montre. Faire un trou n'empêchait pas, dans les armes, les empêchait de fonctionner, mais ne les empêchait pas d'être analysés par la justice. Je pense que s'agissait plutôt d'un grand rétropédalage quand il s'est rendu compte que sa fable d'une grande action contre le TA n'a pas passé le cap.
Bichente Brignon, vous diriez que là, dans cette affaire, on est, c'est communication contre communication, une guerre de communicants.
Je pense que Barbara Loyer a raison, c'est une vraie bataille médiatique. Il ne faut pas oublier que c'est une bataille qui a quand même fait des morts. C'est une bataille où les mots ont un sens, c'est une bataille qui vient de très loin quand même, parce qu'elle vient de la guerre civile espagnole au départ, hein, du coup d'État, du putsch du général Franco, qui ensuite a fait régner une dictature pendant 40-50 ans sur l'Espagne. Les nationalistes en espagnol, los nacionalistas, à la base, c'était les franquistes. Hein, il y a eu un glissement sémantique dans ce cas-là. Tout ça, c'est quelque chose qui est très présent en Espagne, qui n'a pas été réglé. Ça aussi, c'est une bataille médiatique. Il y a une bataille sur l'oubli et la mémoire historique en Espagne qui est en train de ressurgir actuellement. C'est pas neutre dans le débat en Pays Basque, donc tout ça, ça compte aussi. Pour vous donner une illustration de la bataille médiatique que c'est que moi, j'étais devant la maison, j'étais à 10 mètres de ce qui se passait, de ce qui était en train de se passer. Il y avait un cordon du raid devant, et puis c'était la garde civile qui était dans la maison en Louvoise. C'est pas que la police française, hein, c'est la garde civile. Et c'est l'Espagne qui donne le tempo dans cette bataille-là. Le premier à réagir, ça a été le ministère de l'Intérieur espagnol. Voilà, moi, je les avais à 10 mètres devant moi, je ne savais pas ce qui se passait, mais il y avait un communiqué du ministère espagnol qui disait qui est arrêté, ce qu'il y avait dans la maison à Lourdes, comment ils avaient été arrêtés, combien de personnes participaient à l'opération et tout ce qui était en train de se passer. Bien avant, Bruno Leroux, qui ensuite a embrayé par derrière en reprenant un peu les termes de la communication espagnole. C'est un langage qui est très bien rodé, c'est une bataille médiatique très bien rodée. Pour vous donner un autre exemple, la dernière cache d'armes qui a été prise auparavant, parce qu'on peut raisonnablement penser que la police française espagnole savent, ils doivent connaître à peu près, disons 5, 6, peut-être une dizaine de caches d'armes, ils savent où elles sont, ils les surveillent, ils attendent que quelqu'un vienne prendre des armes pour arrêter des militants. La dernière, c'était au nord de Paris, dans la Picardie, je crois. Cette cache a été découverte, on va mettre beaucoup de guillemets dans découverte, parce que juste le jour de la fête nationale espagnole, espagnols le jour de la Fiesta de la Hispanidad, de l'hispanité, une fête qui est très conflictuelle en Espagne, qui est boycottée en Catalogne, voilà. Donc ça avait un sens politique de découvrir cette cache d'armes ce jour-là. C'est jamais innocent, ces opérations, elles sont toujours pilotées par l'Espagne. La France est à la remorque derrière, bien évidemment, parce qu'il y a des contreparties hein, par derrière, mais c'est l'Espagne qui pilote tout ça, qui pilote ce qui se passe en France et les opérations menées par la police française.
Mais alors justement, à propos des armes, si l'on en trouve encore, on les découvre de manière plus ou moins fortuite, disons, c'est qu'il y en a encore un certain nombre en circulation. Barbara Loyer, vous diriez que c'est la faute avant tout à ETA qui pourrait très bien finalement livrer ces armes-là, ou bien c'est la faute aux États espagnols et français qui refusent d'entrer dans des discussions pour opérer cette démilitarisation de l'organisation?
Moi, je pense que ça n'est pas exact de parler simplement en termes d'une part, d'un côté de l'ETA et de l'autre côté des deux États français et espagnol. Si vous voulez, si au Pays Basque, l'enjeu, il n'est pas seulement pour l'État espagnol, ceux qui sont aussi très mobilisés sur ces questions de mémoire et d'histoire, ce sont aussi tous les mouvements autour des victimes de l'ETA. Il y a plus de 800 personnes. Il y en a beaucoup qui vivent encore au Pays Basque. L'ETA a organisé l'ostracisme d'une partie de la population. Ils ne veulent pas que lorsqu'il y aura dans une dizaines d'années, il restera plus que 50 prisonniers en prison. Les autres qui auront purgé leur peine seront libérés, se retrouveront à vivre au Pays Basque. Ils ne veulent pas que ces gens se sentent victorieux. Donc le fait de décider de faire valoir que l'ETA a été vaincu, c'est pas simplement une question de l'État espagnol. Et ça, c'est une première chose.
Ça veut dire qu'il y a une pression de ces organisations de victimes pour dire aux États, voilà, on ne négocie pas avec ETA.
Et des gens qui se sont mobilisés contre l'ETA et qui ont vécu pendant des années avec des gardes du corps. C'est quand même quelque chose, c'est une histoire très lourde. Je pense qu'il n'est pas juste de ramener l'État espagnol un peu subrepticement à la période franquiste. La période franquiste, c'est une chose. En 77, il y a eu une amnistie. L'ETA qu'on connaît aujourd'hui est une ETA qui s'est développée exclusivement pendant la démocratie. Qu'il y ait eu des assassinats de la part du gouvernement espagnol pendant le gouvernement Felipe González et des mercenaires et des choses qui ont été inacceptables, c'est une chose. Mais on ne peut pas ramener l'État espagnol au franquisme par un glissement comme ça, même si, voilà. Donc, je pense que oui, ce sont des sociétés, de même qu'au Pays Basque français, la société civile, elle peut être parfaitement contre la violence. D'ailleurs, on voit bien qu'au Pays Basque français, il y a des opinions très diverses au sujet de la nation, mais il y a une volonté de vivre ensemble qui fait que finalement, il n'y a pas eu de développement de terrorisme très longtemps au Pays Basque français, mais ça ne veut pas dire que cette société civile n'est pas dans des stratégies de pouvoir pour faire avancer des idées politiques de part et d'autre.
Michel Tubiana.
Écoutez, j'entends ce qui se dit. Deux observations. D'abord, je partage l'idée selon laquelle il y a deux périodes de l'ETA. Il y a ce qui s'est passé durant le franquisme, et c'était le franquisme. Donc je ne porte pas le même jugement sur ce qui s'est passé pendant le franquisme qu'après le franquisme. Et après le franquisme, il est clair que, en tout cas pour la Ligue des droits de l'homme, ce n'était pas admissible. On n'utilise pas les moyens qu'a utilisé l'ETA, y compris en termes de violence sociale, dans le cadre d'une démocratie, fut-elle imparfaite. Parce qu'il faut quand même rappeler que la magistrature n'avait pas changé, qu'un certain nombre de choses n'avaient pas changé, mais loin de moi l'idée de dire que les actes des uns peuvent excuser les actes des autres, dans quelque sens que soit, dans quelque sens que l'on prenne les choses.
Donc la démarche qui est la vôtre n'est pas une démarche de quoi, de pardon ou d'absolution?
Non, absolument pas. Je ne pense absolument pas que un processus de résilience, de paix, de réconciliation, peu importe, puisse faire l'économie des crimes qui ont été commis, quel qu'il soit, et avec une reconnaissance des victimes. Je crois que l'histoire montre, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit partout ailleurs, dès lors qu'on a tenté de mettre un chapeau, une chape de plomb sur la vérité, sur les victimes, etc., les choses ressurgissent d'une autre manière, ou perdurent encore, quand elles sont instrumentalisées, comme on le voit dans certains pays africains. Alors, à partir de là, la question qui pour nous se pose est la suivante. D'une part, il y a des situations qui sont aujourd'hui inacceptables. Il est inacceptable de voir le minimum des conditions de détention, je parle de la France, pas respectées par la chancellerie. Les prisonniers sont éclatés un peu partout, jamais dans le cadre d'un rapprochement familial. Or, il s'agit là simplement de l'application du droit. Et puis, il y a autre chose, il y a effectivement... avec des agendas politiques, mais qui n'en a pas des agendas politiques, que ce soit le Parti Populaire, le PSOE, les nationalistes du PNV, les Indiens de la gauche Arbenzale, etc. Mais il y a en tout cas, et je crois que la manifestation à Bayonne qui a eu lieu, c'est-à-dire 4000 personnes avec tout l'échiquier politique et
syndical...
Voilà,
donc là, la manifestation, c'était voilà, au lendemain justement cette interpellation.
Au soutien des personnes qui avaient été arrêtées, montre qu'il y a une réelle volonté de reconstruire un lien, de mettre les choses à plat, et c'est cela que nous appuyons.
Dans cette manifestation d'ailleurs, il y a eu parmi les prises de parole celle du maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, Vicente Vrignon, qui dit ceci, depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis que ETA a annoncé l'arrêt définitif de son activité armée, annonce qui a priori a été respectée hein, depuis 5 ans, il dit les États refusent tout processus de paix. Alors Barbara Loyer nous disait, voilà, on peut pas tout mettre sur le dos des États, il y a aussi la société civile qui exerce une pression qu'on peut... comprendre absolument, mais pour quelle raison, à votre avis, les États, ou même la société civile d'ailleurs, ne se sont pas saisis de cette annonce d'ETA pour engager un processus et des négociations ?
Alors la société civile, ben parce que j'imagine qu'elle a attendu que les États bougent. Et puis c'est vrai qu'il y a eu une période de latence quand même, on va dire, de prudence de 1, 2, 3 ans, ou pour voir si vraiment c'était une vraie trêve, si l'ETA allait pas continuer ou pas, si ça tenait la route. Et puis voilà, la société civile, donc c'est ce qu'ont fait les 5 personnes qui ont été arrêtées. Les États, pourquoi ils bougent pas? Il y a énormément de raisons hein, politiques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Espagne, l'échiquier politique est en train complètement d'éclater. On avait une droite et une gauche, un Partido Popular, un parti de droite et d'extrême droite, puisqu'il rassemble tous les anciens franquistes. Le président d'honneur a longtemps été un ancien ministre de Franco, et puis un PSOE qui tenait cet échiquier politique, qui ont complètement éclaté. Et puis, il y a des nouveaux partis qui surgissent. Pourquoi ils n'ont pas voulu bouger? Parce que aussi, depuis, c'est ce que disait Barbara Loyer, depuis la transition franquiste, la vie politique espagnole, en très large partie, s'est organisée autour de TA. Autour, voilà, la lutte contre TA, ça a aussi été payant politiquement pour le Partido Popular. Et le fait que TA disparaisse, ça aussi, ça désorganise l'échiquier politique espagnol. Le fait de plus avoir d'ennemis intérieurs, ça, voilà, ça désorganise en grande partie l'échiquier politique espagnol.
Ce que dit quelqu'un que vous connaissez sans doute, qui est professeur de droit public, c'est Jean-Pierre Macias, qui est voilà, un des spécialistes aussi de ces questions. Et il disait au journal Le Monde, si la violence de l'ETA disparaît, les conditions au Pays Basque d'un référendum d'autodétermination seront plus faciles à obtenir. Parce que ça veut dire quoi? Parce que les revendications indépendantistes seront perçues comme des revendications strictement politiques qui n'ont plus rien à voir avec une menace d'ordre sécuritaire.
Oui, certainement, mais enfin, si vous voyez ce qui se passe en Catalogne, où il n'y a jamais eu de problème de violence, c'est ce qu'ils demandent et visiblement, ils ne sont pas prêts de l'obtenir parce que ça crée un gros souci à Madrid qui n'est pas prêt de lâcher sur cette question.
Barbara Loyer, justement, est-ce que du point de vue, en tout cas, du gouvernement espagnol, maintenir ETA dans une position d'organisation qui reste encore dangereuse, c'est une façon de l'empêcher, soit elle, soit les organisations politiques qui s'en inspirent, en tout cas, sur la question de l'indépendance, d'aller davantage sur le terrain politique, en tout cas, d'obtenir un référendum d'autodétermination?
Je dirais que d'abord, je pense que du point de vue du gouvernement espagnol, faire appliquer la loi, c'est bouger. C'est bouger dans un sens qui n'est pas celui dont parlaient les personnes précédentes, mais c'est bouger, c'est-à-dire c'est affaiblir, c'est continuer à affaiblir l'ETA, jusqu'à ce qu'il puisse vraiment plus du tout recommencer. Il y a un groupuscule de membres de l'ETA dans les prisons qui pensent que c'est pas bien d'avoir laissé les armes, mais ils sont pour l'instant, semble-t-il, très minoritaires. Et tous ceux qui reviennent au pays sont reçus par des hommages, mais il se dit qu'après, on a plutôt tendance à les oublier, que les gens ont envie de tourner la page, et c'est-à-dire un peu de les abandonner à leur passé. Donc faire appliquer la loi rigoureusement, c'est bouger dans un sens. Ce qui est un choix. Par ailleurs, du point de vue de la société civile qui lutte contre le TA, c'est lutter contre une culture de la violence, c'est-à-dire le fait que dès que vous faites quelque chose qui ne va pas dans le sens des groupes radicaux nationalistes, le village se couvre de graffitis vous dénonçant, et il n'y a personne qui va venir vous aider ou vous soutenir. Ça vient d'arriver en octobre dans une petite ville de Navarre contre des gardes civils, et ça vient d'arriver à Pamplune aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de gardes civils pour un événement concret, et il y a eu des graffitis partout. Donc c'est des choses que les gens ont vécues déjà dans les années 80, dans les années 90, et ils ont eu l'impression, pour une bonne partie des gens qui étaient contre le TA, que c'est aussi parce qu'ils ont laissé faire. Donc vous avez une partie de la société qui est extrêmement mobilisée contre le fait qu'il faut désamorcer cette culture de la violence, lutter contre, ne pas la laisser, ne lui donner aucune légitimité. Pour ce qui est de l'ennemi,
mais est-ce que ça ne passe pas, pardonnez-moi Barbara Loyer, par un processus de réconciliation plutôt que par un processus d'oubli, en fait, dont on sait bien qu'il ne peut jamais être total?
En fait, là, c'est le processus, si vous voulez, il n'y a pas un processus d'oubli, c'est justement ce contre quoi luttent les familles des victimes. C'est qu'il n'y ait pas de processus d'oubli. D'ailleurs, il y aurait entre 150 et 300 cas qui n'ont pas été élucidés de meurtre, parce que dans les années 80, ben, la police, elle faisait pas comme son boulot comme il fallait, parce que la tension était extrême aussi. Et il y a des gens qui voient le cas de l'assassinat de membres de leur famille qui maintenant est prescrit. C'est-à-dire ils savent qu'il n'y aura jamais la vérité faite dessus. Donc l'oubli, si vous voulez, il va se passer dans les deux
justement.
Sens. La chose que je voudrais terminer sur l'idée de l'ennemi intérieur en Espagne, ils n'ont pas besoin de l'ETA. Pour ça, la situation en Espagne, notamment avec les Catalans et le défi catalan indépendantiste, est très complexe. Et par ailleurs, il n'est pas exact de dire qu'il n'y a jamais eu de problème de violence en Catalogne. Il y a eu un terrorisme catalan bien moins puissant après le franquisme. Et il y a eu de la violence en Catalogne dans les années bien antérieures. Donc c'est pas vrai que c'est une société ontologiquement pacifique. C'est une société qui, politiquement, a neutralisé les groupes qui, eux, auraient voulu être violents.
Alors donc, je vais laisser répondre et Michel Toubiana et Vicente Vrignon. Michel Toubiana.
Moins deux choses. Bon, d'abord, être indépendantiste, c'est le droit de chacun. Hein, c'est une opinion dès lors qu'elle ne dégénère pas en action violente, point final. Et vouloir absolument criminaliser ou ne pas entendre ces revendications, c'est une autre forme de déni de démocratie. La violence en étant une autre, bien évidemment. Deuxièmement, on peut fonctionner dans les années recuites. On peut maintenir, par exemple, les interrogations des familles qui voient leur vie, qui voient l'assassinat de leurs proches prescrites parce que le boulot n'a pas été fait.
Ce sont des interrogations qui sont quand même légitimes.
Mais non seulement légitimes, mais on peut les entretenir. Et continuons comme ça, nous les entretiendrons. Il y a d'autres processus qui sont possibles. Il y a une volonté aujourd'hui de mettre les gens autour d'une table. Pourquoi ne pas essayer de faire ce que l'Espagne a ignoré, y compris à propos de la guerre civile et avec les conséquences que l'on connaît, de mettre les choses sur la table, de convoquer une commission, de voir les conditions dans lesquelles les choses pourraient être dites et se faire, et reconnues, et des victimes dites, des responsables, c'est d'autres endroits dans le monde. Je pense qu'on peut essayer de faire un peu un effort d'imagination pour ne pas rester dans le schéma binaire du gagnant, du vaincu, du délinquant et ou autre.
Sauf à considérer, Michel Toubiana, que c'est peut-être un peu prématuré, parce que toute la lumière n'a pas été faite sur certaines affaires, et que ETA a encore des armes qui sont cachées, et peut-être aussi des militants qui pourraient, on ne sait pas, changer d'avis et revenir sur cette annonce d'un arrêt de l'activité armée.
En tout état de cause, l'attitude du gouvernement espagnol et français, enfin du factotum qu'est le gouvernement français,
ouvre factotum, la... parce que vous considérez que c'est parier aux ordres de Madrid, en gros, sur ces questions.
D'abord parce que le ministre de l'Intérieur n'est plus le précédent, et puis ensuite parce que, effectivement, ça fait longtemps que le gouvernement français aligne sa politique sur les désirs du gouvernement espagnol. On rappelle quand même qu'elle a essayé à un moment de couvrir aussi un certain nombre d'agissements délictueux du gouvernement espagnol. Et encore une fois, on ne met pas les choses en balance. Mais tout à fait d'accord, on aura toujours des irrédentistes. Regardez dans le processus qui a eu lieu en Irlande. Lorsque l'IRA a décidé de négocier, on a eu immédiatement la création de l'IRA provisoire et un certain nombre. Donc par conséquent, au contraire, il faut pallier, il faut empêcher ce genre de choses. Et quant à la volonté de désarmement de l'IRA, en tout cas, c'est clair, et nous ne serions pas livrés autrement, il y a aujourd'hui une volonté de l'ETA de remettre ses armes sans condition. L'ETA veut négocier, dans le cadre de sa dissolution sur les prisonniers, sur ceci, sur cela. Sur les armes, elle dit clairement, l'organisation dit clairement, nous désarmons. Elle dit, ça peut pas se faire n'importe comment, vous l'imaginez bien.
Bichente Evrenian, vous qui êtes journaliste donc à Bayonne, au Pays Basque, comment est-ce que vous ressentez l'opinion sur cette question, sur ces questions, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt une volonté justement d'aller vers un véritable processus de paix, ce qui suppose des discussions, voire des négociations, ou bien au contraire de tourner la page et de ne plus parler de ce passé, de ces années particulièrement sombres?
Il faut savoir de quelle opinion on parle, hein. Si c'est côté français ici, on n'a pas la même histoire, pas le même vécu que ce qui s'est passé de l'autre côté de la frontière, mais je pense que assez uniformément et très très largement, l'opinion veut, l'opinion publique voudrait aller de l'avant, voudrait tourner la page de ce qui s'est passé. Mais on voit que c'est ce qu'on disait au départ, c'est la bataille du récit. On veut construire un récit, et c'est pas le même récit d'un côté et de l'autre. Et les mots ont une influence réelle sur ce qui est en train de se passer, sur les armes qui sont remises ou qui sont pas remises. Le récit du gouvernement espagnol est... On l'entend quand dans ce que dit Barbara Loyer, c'est de dire ils veulent faire la paix, mais il n'y a pas eu de guerre. Bon, il n'y a pas eu de guerre, d'accord. Alors, il y a eu un conflit. Non, il n'y a pas eu de conflit non plus. Il y a eu des attentats, mais après le franquisme, c'est pas la même chose qu'avant le franquisme. Et on voit bien qu'on commence à s'empêtrer dans quelque chose qui est pas vraiment clair. Et à ce moment-là, c'est compliqué de faire des pas en avant, de dire écoutez, on va discuter, puis on va essayer de trouver, de se mettre d'accord sur ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé. Mais quand on nie, c'était la position du gouvernement espagnol, il s'est rien passé au Pays Basque, il y a eu des assassins qui ont tué des gens dans la rue. Quand on en est à ce point-là, on ne peut pas progresser. Et ce n'est pas ce que vivent les gens au Pays Basque, que ce soit les nationalistes, qui sont largement majoritaires, mais que ce soit aussi... Quand vous entendez certaines personnes comme Gorka Landaburu, qui a été correspondant de France Bleu Pays Basque à Saint-Sébastien, qui a été victime d'un attentat d'ETA, lui, il vous parle de négociations avec les gens d'ETA. Il dit qu'il faut parler avec les gens, il faut négocier, il faut se mettre autour d'une table. C'est pas ce que dit Barbara Loyer sur les victimes d'ETA. C'est pas un discours unique, unitaire, d'un bloc. C'est pas vrai, c'est pas ça. Mais le problème, c'est le gouvernement espagnol qui bloque tout, qui est arc-bouté sur sa position et qui ne veut pas bouger de la position actuelle, c'est-à-dire aucun contact, zéro contact avec ETA. La seule solution, c'est d'arrêter tout le monde et on ira chercher les armes nous-mêmes là où elles se trouvent.
Barbara Loyer.
Alors, moi, je dirais que, si vous voulez, effectivement, être indépendantiste, c'est pas être délinquant. D'ailleurs, en Espagne, le PNV, le Parti Nationaliste Basque, est le premier parti depuis fort longtemps et c'est un parti indépendantiste. Donc en fait, ce qui est reproché, c'est précisément d'avoir continué d'avoir pris les armes alors que c'est parfaitement légal d'être indépendantiste en Espagne. Il y a des rivalités extrêmement fortes entre ces gouvernements autonomes dirigés par des nationalistes périphériques et le gouvernement central espagnol, notamment quand il a été, en fait même... que ce soit du Parti Socialiste ou du Parti Populaire, il y a toujours des rivalités extrêmement fortes. Donc, de ce point de vue-là, voilà, il n'y a pas de problème. Je veux dire, le problème, c'est quand même que oui, on a tué des gens dans la rue, alors qu'il n'y avait pas aucune raison de tuer des gens dans la rue. À part ça, que une chose est de savoir de construire ce récit. Et en effet, là, il y a les débats sont très très opposés sur le récit de l'histoire, de savoir si c'est la paix qu'on construit ou si c'est la fin du terrorisme. Par ailleurs, il y a des attitudes extrêmement variées du point de vue des victimes, parce que d'un point de vue individuel, se rapprocher de celui qui a causé votre malheur ou ne pas s'en rapprocher est quelque chose d'extrêmement individuel. Il y a des gens qui ont besoin de parler, il y a des gens qui ont besoin de tourner la page, il y a des, ce sont des mécanismes psychologiques sur lesquels je n'ai strictement aucune opinion. Par bonheur, ça ne m'est pas arrivé et j'ai rien à dire là-dessus. Et donc vous avez des attitudes qui sont très variées du point de vue individuel. Et par ailleurs, vous avez aussi un parti socialiste au Pays Basque qui est lui-même divisé sur ce qu'il faut faire vis-à-vis du nationalisme.
Mais Barbara Loyer, quand l'ETA dit « nous voulons désarmer, nous sommes prêts à le faire, à prendre des initiatives », est-ce que vous avez des raisons, on va dire, de douter de la sincérité de cette organisation ?
Oui, ça, enfin, je veux dire, je pense que oui, je doute de la sincérité de l'ETA. Ce que je veux dire, c'est que s'ils n'ont qu'à dire qu'ils se dissolvent, l'ETA, c'est fini, on dit où sont les armes et c'est fini. Voilà. Maintenant, il resterait à négocier, il reste à peu près 200 personnes derrière les barreaux. Peut-être un rapprochement, ça ferait peut-être mieux s'il disait bah, on a disparu, c'est terminé, on n'est plus là, voilà où sont les armes. Je pense qu'il est, pour moi, l'ETA, enfin le cas de l'Irlande et le cas du Pays Basque, c'est pas pareil. En Irlande, vous avez vraiment eu également des paramilitaires protestants, plus l'armée anglaise, plus l'IRA, ça fait beaucoup de gens armés. Au Pays Basque, vous aviez la garde civile dans les aéroports et dans les ports et dans les frontières, vous aviez la police autonome basque dans le reste du Pays Basque et des gens qui se, et des élus ou des journalistes ou des qui se sont fait tirer dessus comme des lapins quand même. Enfin, c'est pas la même chose.
Bah, Michel Toubiana, finalement, c'est vrai que ça paraît assez logique que l'ETA se dissolve et qu'elle dise où sont les armes.
Sur le degré de violence entre les uns et les autres, vous savez, c'est toujours extrêmement aléatoire d'aller planter des bornes en disant ça, c'est plus important que d'autres.
Oui, mais pourquoi pas aller jusqu'à l'autodissolution ?
D'abord, écoutez, moi, je suis pas l'ETA, hein, donc c'est limite. Et puis, je pense que c'est une perspective. Et je pense que c'est une perspective nécessaire, l'autodissolution. Cela dit, notre agricultrice, là, prend les choses quand même un peu à la légère. Je rends les armes, et puis on s'autodissout. Mais, très honnêtement, croit-elle un seul instant que le gouvernement espagnol va cesser ses poursuites ? Croit-elle un seul instant que ceux qui sont en exil pourront rentrer, et ce ne serait même pas sain, d'ailleurs, que ça se passe ainsi, parce que cela apparaîtrait comme une impunité à l'égard des victimes. Donc, par conséquent, essayons de faire preuve d'un tout petit peu d'imagination, d'un tout petit peu de compréhension humaine, qui fait que pour résoudre ce type de conflit, à partir du moment où une des parties dit j'arrête, eh bien, on se met autour d'une table et on regarde les conditions dans lesquelles on arrête. Ça ne veut pas dire impunité, ça ne veut pas dire travestir la vérité, ça veut dire simplement un moment de résilience pour préparer l'avenir.
Une courte réponse, Barbara Loyer ?
Je veux dire, en fait, je suis pas dans les cercles restreints qui peuvent savoir ce qui serait le plus opportun pour que, en effet, l'ETA arrive à dire on se dissout. Mais ce que réclament beaucoup de gens, c'est qu'ils disent on se dissout et vraiment on demande pardon pour ce qu'on a fait, ce qui évidemment ne sera pas fait. Ça va aussi porter là-dessus les débats à l'intérieur, si vous voulez, des sociétés, de la société locale notamment. Donc exactement comment ça doit se faire, je peux pas trop vous le dire. Moi, je me dis s'ils veulent arrêter, ils arrêtent. Et puis voilà, à un moment donné, ils ont été vaincus. Enfin, ils ont quand même été vaincus par la justice et la police. C'est pour ça qu'ils ont arrêté. Enfin, c'est parce qu'ils ont été vaincus. Alors, je comprends que ce soit difficile d'admettre qu'on a été vaincus, mais de fait, c'est la réalité. Pour l'instant, ils font pas grand-chose. Alors, c'est vrai qu'il peut toujours y avoir quelqu'un qui, avec un pistolet, retue une nouvelle personne, parce qu'il faut pas grand chose pour tuer, mais c'est pas cette menace-là ne peut pas non plus justifier le fait qu'on puisse pas leur dire bah écoutez arrêtez, s'il faut tourner la page il faut, c'est quand même eux qu'on tue 860 personnes.
Bichette Tivrignon, juste, et puis ce sera la conclusion de cette émission, qu'est-ce qui retient selon vous ETA de ne pas s'auto-dissoudre? Est-ce qu'il peut aussi y avoir l'idée de renaître, ou en tout cas de poursuivre une action, mais sur un terrain qui serait un terrain pacifié, celui de la politique?
Je ne crois pas que ce soit de reprendre l'action. Ce qui retient l'intérêt, c'est ce que disait Michel Tubiana. Vous connaissez quelqu'un, un saint d'esprit, qui va dire, écoutez, oui, c'est moi qui avais 600 pistolets mitrailleurs. J'ai bien envie de passer 40 ans en prison. Venez m'arrêter. Les armes sont là. Voilà, c'est juste ça. C'est que il y a un moment, il y a quand même des questions pratiques à régler. Il y a des questions politiques, certes. Il y a aussi des questions pratiques. Il y a des gens qui sont en prison. Il y a des gens qui sont en clandestinité. Il y a des gens qui sont en exil à Cuba, au Venezuela, ailleurs en Amérique du Sud, et qu'il faut régler toutes ces questions. Et si personne ne veut parler, à ce moment-là, ces gens-là, ils resteront dans la nature, et voilà.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Michel Tubiana, Barbara Loyer et Vicente Vrignon. Je remercie également nos camarades de France Bleu, Pays Basque, à Bayonne. Cette émission, vous pouvez la réécouter comme chaque jour, la podcaster, la commenter sur notre fil Twitter. Un grand merci à toute l'équipe du Grain. Philippine Lebray, Antoine Tricot, Céline Leclerc, Isolte Sicard, Tanguy Omri. Émission réalisée par Clémence Grosse avec à la prise de son Lucas Vaillant. Demain, ce sera le dernier club des idées de l'année 2016. Nous établirons notre palmarès politique. Qui a le plus surpris, qui a le plus déçu? Ce sera avec les membres du club. Dans un instant, vous allez retrouver Géraldine Mosnay-Savoie et Xavier Delaporte pour Ping Pong.
Bonsoir,
un petit avant-goût de vos échanges.
Alors un avant-goût donc autour de la réalité animée. On sera avec Louise Brand, qui est co-directrice et co-fondatrice d'une société 4D Max autour de la scan 3D, qui a travaillé notamment sur le prochain film de Luc Besson, et puis avec Jean-Jacques Launier pour l'exposition Walt Disney, le mouvement par nature, qui est au musée des arts ludiques.
On vous retrouve très vite. Pour l'heure, c'est le rappel des titres.